Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous allons parler du festival Migre en scène qui se déroule du 19 au 30 novembre avec nos invités Daniel et Blandine. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire ce que vous faites un petit peu dans l'association pour le festival?
Oui, bonjour. Donc je commence, Daniel. Je suis bénévole depuis 2013 au groupe local de la CIMAD de Grenoble. La CIMAD étant une association nationale qui a des groupes dans une centaine de villes en France. On est 2500 bénévoles à peu près et on est entre 50 et 60 à Grenoble. Ces bénévoles s'occupent en fonction de l'objet de la CIMAD, de l'accompagnement, de l'accueil, de l'aide aux étrangers qui sont en France et qui souhaitent soit régulariser leur situation, soit améliorer leur connaissance du français, soit un autre pan de l'action de la CIMAD. La CIMAD souhaite qu'on parle autrement des migrations et donner des informations. Et le groupe, l'équipe de coordination du festival Migre en scène, dont Blandine fait partie, on est 7 ou 8, organise ce festival et dont nous allons parler tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et vous, Blandine, qu'est-ce que vous faites ?
Blandine, bénévole depuis, je dirais, 5-6 ans. Je suis vraiment dans l'équipe du festival depuis 4 ans. Avec des années comme 2019 où on a eu vraiment énormément de présentations, de spectacles, de concerts, et des années un petit peu plus modestes comme cette année. Donc c'est super que vous puissiez parler de nous. Moi, je me suis focalisée sur le groupe sensibilisation avec la disponibilité qu'on peut avoir, bien évidemment. Donc, c'est essentiellement une intervention dans les groupes scolaires, surtout les lycées et généralement avec une personne migrante qui peut témoigner de son parcours. Et c'est très, très intéressant à tout point de vue. Pour nous, le retour des jeunes, les questions des jeunes et ce qu'on peut leur apporter comme information. Pour le festival, donc comme vous le savez, on vous l'a dit, ce sont des spectacles vivants, des animations, des concerts, des projections débats, des projections de films. Donc là, cette année, par exemple, il y aura 3 films projetés sur la période du 19 au 30 novembre, quelques spectacles théâtraux et également des expositions.
Et en parlant de ce festival, comment il a été créé et depuis quand il existe ? Donc il existe nationalement parce qu'il est dans plusieurs villes, mais depuis combien de temps il existe aussi à Grenoble ?
Alors, il faut remonter un peu dans l'histoire de la CIMAD. La CIMAD, créée en 1939, elle acquiert son existence, ses valeurs dans les camps d'internement en France. Et elle va jusqu'à la libération essayer de faire sortir des camps beaucoup d'enfants juifs. Elle va pouvoir les exfiltrer soit vers la Haute-Loire, soit vers la Suisse. Là, c'est l'origine de la CIMAD. Résister dans une époque où les prisonniers politiques qui venaient d'Allemagne, les réfugiés politiques devenus prisonniers en France, les Espagnols avant qui avaient fui le régime de Franco et les Juifs étaient enfermés dans des camps. Et la CIMAD va se forger et forger son esprit de résistance dans ces camps. Je passe rapidement sur la suite. Après la guerre, on va lui demander de continuer d'agir dans les camps. Elle va le faire en France, en Allemagne. Ce n'est plus les mêmes personnes qui sont dans les camps. Puis elle va s'occuper des demandeurs d'asile. 1951, c'est la Convention de Genève. Et la CIMAD va s'occuper. C'était facile à l'époque. Enfin, en tout cas, à l'époque, les résultats obtenus étaient considérables. 80% des personnes qui demandaient d'asile pouvaient l'obtenir. Au fil du temps, et à partir de 1973, la législation et la réglementation en France va se durcir vis-à-vis des étrangers, à tel point que dans les années 90, et on arrive au Festival Migrants Scène, on a un peu inversé les résultats. C'est-à-dire que pour 100 demandes, il y en a une trentaine, une vingtaine qui aboutissent, et donc 80% qui sont déboutés. C'est assez insupportable de voir ces gens qui viennent parce qu'ils ont tout perdu pour ce qui est des réfugiés, qui viennent parce que leur condition de vie était très mauvaise dans leur pays, ou simplement parce qu'ils avaient envie d'aller ailleurs, et qui n'arrivent pas à obtenir des titres de séjour qui leur permettraient de s'installer correctement en France et de vivre normalement. Et c'est là qu'est né le festival. Les Toulousains se sont dit « mais on ne peut pas continuer à simplement agir individuellement, il faut qu'on agisse sur l'opinion publique, et quel meilleur moyen de le faire que le théâtre, le cinéma, les expositions ?» Et dans les années 95, naît dans la région, dans le sud-ouest, ce festival qui, vers les années 2005, va devenir national. Et depuis, eh bien, il se développe, et il est actuellement dans plus de 100 villes, l'agglomération de Grenoble compte pour un, donc on est dans 4-5 villes. Donc beaucoup d'endroits en France ont des manifestations liées au festival.
Un festival qui existe depuis de nombreuses années, et donc l'association qui puise ses origines dans la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des objectifs de ce festival, c'est de changer les regards sur les personnes exilées. Et donc de combattre les stéréotypes. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de préjugés qui sont encore pour vous très présents à ce sujet ?
Oui, alors par exemple, les récits qui seront stigmatisants, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter le calvaire que vivent les migrants dans leur route jusqu'à chez nous, d'imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Il y a souvent de fausses informations ou des déformations de faits réels. C'est surtout, vous avez prononcé le mot de stéréotype, préjugé, c'est surtout qu'on simplifie à outrance. C'est-à-dire des situations qui sont fort complexes au départ, qui sont de véritables souffrances pour les personnes. On simplifie, on ne se rend pas compte des vraies raisons pour lesquelles ces personnes viennent. C'est que souvent, elles n'ont pas le choix, tout simplement. Et par rapport à des stéréotypes, alors, nous, ce qui nous gêne beaucoup à la CIMAD, c'est qu'on englobe, c'est-à-dire on dit les migrants, on englobe ça une seule et unique catégorie, alors qu'il y a des multitudes de facettes et de profils, ne serait-ce que par les origines ethniques et de pays. Et sinon, l'idée, c'est vraiment de d'ailleurs, dans notre thème de cette année, l'altérité, on veut vraiment mettre ce thème en avant, parce que l'altérité, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans qu'il représente un danger pour soi. Or, tous les amalgames, tous les récits dont on nous abreuve ces jours-ci en plus, font que qu'en fait on a une image totalement erronée de la réalité.
Et donc vous avez parlé de ce thème, de la thématique Tissons demain, et donc ça fait 2 années consécutives que c'est cette thématique pour le festival. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle signifie pour vous?
Alors on va revenir un petit peu en arrière pour ce que veut la CIMAD. Elle lutte pour le respect de la dignité des personnes et le respect de leurs droits. On ne demande pas d'exception, on ne demande pas de choses extraordinaires, on demande que la loi qui existe leur soit appliquée. Et que même si la loi est de plus en plus restrictive, lorsque les gens remplissent les conditions pour obtenir leur titre de séjour, ils puissent l'obtenir. Et Tissons demain, eh bien, c'est reconstruire du lien, ce lien qui se délite sous la pression des médias mainstream, de droite, d'extrême droite, qui monopolisent monopolise la parole sur ces questions-là, qui focalisent sur ces questions-là, et en nous faisant oublier que derrière les chiffres des migrations, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Les migrants, c'est 50% de migrantes. La moitié des migrants sont des femmes. Et puis, c'est des enfants qui sont là. Et tisser demain, c'est montrer qu'il existe des alternatives. Et que contrairement aux grands discours qu'on entend, dans tous les départements, dans des tas d'endroits, des gens se réunissent pour accueillir les migrants. Et on a eu un grand exemple quand le gouvernement, a voulu vider la jungle de Calais. On a emmené les personnes qui ont été sorties de Calais dans toute la France, dans des centres d'accueil et d'orientation, pour lesquels souvent l'extrême droite a réagi en criant au scandale, etc. Et l'expérience qui s'est développée, c'est que dans les endroits où ces personnes ont été accueillies, que ce soit des hommes, des femmes, des familles, eh bien, au bout de 6 mois, puisque c'est en gros ce que ça a duré, ils étaient les bienvenus. Ils n'étaient plus du tout des personnes à rejeter, qui posaient problème. Ils aidaient dans les équipes de foot, ils apprenaient le français, et des tas de populations se sont mobilisées. Les alternatives, c'est ça. C'est-à-dire, c'est sortir des grands discours de rejet pour mettre en place des actions d'accueil, d'aide, pour ces personnes qui viennent très simplement pour trouver une place chez nous.
Et pour faire en sorte que, justement, elles ne constituent plus une menace, dans l'esprit en tout cas. Il y a effectivement les pensifs, c'est ils viennent prendre le travail, ils viennent profiter du système de sécurité sociale, et ils sont synonymes d'insécurité parce que ce sont, entre guillemets, des violeurs, des voleurs en puissance. Là, quand les personnes vivent à leur côté, quotidiennement, dans des petits espaces, parce que souvent c'était des communes villages, un peu réduites, eh ben, l'approche est tout à fait différente et on ressent simplement une personne riche à découvrir. Quoi.
Oui, et c'est en ayant des expériences humaines avec eux qu'on voit qu'au final, ça déconstruit tout de suite tous les préjugés que certains absolument peuvent se faire dessus. Oui, tout à fait. Donc un réel but d'humaniser ces personnes dans votre association. Et vous avez donc cet objectif, vous nous l'avez expliqué, de mettre en place un discours alternatif et à intéresser des personnes qui ne seraient pas forcément intéressées à ces questions. Et à ce propos, comment vous vous y prenez pour susciter cet intérêt de la part de personnes qui ne l'ont pas forcément à l'origine ?
C'est en fait l'organisation du festival se fait avec des partenaires. Des cinémas, des médiathèques, d'autres institutions qui reçoivent du public. Ils ne reçoivent pas les publics de la CIMAD. Ils reçoivent leur public. Et c'est donc au public de ces lieux culturels, artistiques, scientifique, ça peut être à l'université, c'est dans ces lieux, c'est les publics de ces lieux qui se posent des questions par rapport aux migrations, ces personnes qui viennent et qui se renseignent. Et ça fait maintenant 12 ans que le festival existe. Et les gens viennent parce qu'ils ont envie de savoir et d'avoir une parole à laquelle ils puissent se fier. Et c'est ce que la CIMAD essaye toujours de faire, c'est-à-dire que les éléments, les informations qu'elle donne sont des informations officielles, elle ne va pas les inventer, elle les trouve dans les statistiques françaises, européennes, et ça permet de remettre les choses, les pendules à l'heure et les choses à leur place. Donc, ce n'est pas nos bénévoles qui se réunissent entre eux, c'est les cinémas, les médiathèques qui reçoivent leur public et qui offrent à ce public une discussion.
Et cette année, ce qu'on va essayer de vraiment mettre en place, c'est de permettre à des migrants, des apprenants, c'est-à-dire des personnes qui prennent des cours de français dans notre association ou dans d'autres, de participer. Parce que Donc, non seulement on veut éviter l'écueil d'être entre nous et de ne réunir que des personnes déjà sensibilisées à la cause, si je peux m'exprimer ainsi, mais que des personnes concernées par les douleurs administratives, les problèmes de logement, etc., puissent aussi avoir accès à l'art. Et par exemple, à cette année, certaines personnes vont pouvoir venir voir gratuitement un ou plusieurs films qu'on propose, voir un spectacle où dans le spectacle, des personnes témoignent aussi de... Disons que le spectacle a été mis en place à partir de témoignages. Donc, on veut vraiment que ça leur parle aussi et qu'ils sentent qu'il y a une mobilisation autour d'eux aussi.
C'est comme ça qu'on voit la réelle réalité au final en faisant intervenir des personnes exilées et
Qui vivent ces événements au jour le jour.
Oui. Et donc justement, en parlant de votre festival et de votre programmation, vous avez beaucoup de personnes artistes, donc des personnes exilées artistes qui interviennent. Et je voulais vous demander comment vous construisez cette programmation, comment vous trouvez ces personnes qui vous fait intervenir.
La CIMAD fait tout un travail de préparation pour les équipes des différentes villes qui vont organiser le festival, au niveau en particulier des films. C'est-à-dire qu'il y a une sélection de films qui est proposée aux bénévoles, et donc par les bénévoles aux différents cinémas, ciné-clubs, médiathèques qui sont susceptibles de les recevoir. Donc ça, c'est un premier outil qui nous est donné qui permet souvent, à des tarifs qui ont été négociés par la CIMAD, d'obtenir à la fois le film et souvent aussi le réalisateur qui peut venir répondre aux questions du public sur son film et sur ce qu'il a voulu faire. On aura le 30, lors de la clôture du festival, nous aurons trois apprenants qui vont, sous la conduite d'une de nos bénévoles, Chantal Mahoud, qui a dirigé des ateliers de théâtre, ils vont lire un texte qui s'appelle Lampedusa Snow, qui est donc un travail avec trois apprenants de la CIMAD qui vont encore incarner la voix de Mohamed, qui est un demandeur d'asile politique. Et donc Lampedusa, c'est l'endroit où arrivent beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique du Nord, de Libye, etc. Et donc ce travail va... ces trois personnes vont lire ces textes.
Un texte qui est issu d'un ouvrage.
Et donc, c'est un travail qui dure maintenant depuis presque 2 mois et demi. Et c'est eux qui sont apprenants.
Et qui construisent tout ce spectacle.
Avec Chantal Mahoud. Et ça sera à la salle Stendhal, à côté de la Musée des Allobroges. Nous sommes aussi en partenariat avec l'APARDAP, l'Association de parrainage républicain et d'aide association de parrainage républicain, et puis je ne sais plus quelle est la suite, mais cette association APARDAP, qui est une grosse association grenobloise, iséroise, et qui les parrainages républicains, c'est l'adoption en fait devant le maire d'un homme, d'une femme, d'une famille par un homme, une femme, une famille française qui deviennent les parrains et marraines de ces arrivants et qui vont les aider, les accompagner dans leur trajet. Et cette association qui regroupe de nombreuses personnes, à la fois migrantes et parrains marraines, organise un certain nombre d'activités, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Je pourrais l'expliquer tout à l'heure. Et ils ont un atelier théâtre. Et cette année, donc le 28 novembre à 20h, à la maison, alors il ne faut plus dire maison des associations, mais maison de la vie associative et culturelle, ils vont jouer une pièce de théâtre qui avait été élaborée par un de ces migrants, Mine de rien et Terre promise. Mine, c'est là où il y a des mineurs, on creuse dans la terre, hein, et donc qui raconte une histoire qui se passe à Abdoulaye. Voilà, je vais...
Et sinon, pour répondre à votre question de comment on trouve, c'est par le réseau. Alors, il y a des initiatives personnelles comme celle de Chantal, qui a aimé ce texte et qui a voulu le mettre en voix. Mais la plupart du temps, on entend parler d'un spectacle. On a des contacts un petit peu en dehors de Grenoble aussi. Une année, on est intervenu à Cessiné... À Cessnage, quelqu'un qui crée son spectacle et qui avait tout à fait la thématique de cette année-là. On a des contacts avec Voiron aussi. Il y a énormément d'initiatives de collèges, de festisols aussi, la même chose qu'à Grenoble, et qui nous font découvrir, par exemple, un spectacle qu'on va aller voir en janvier et qu'on reprendra peut-être l'année prochaine. Et on est vraiment à l'affût et à l'écoute de tout ce qui se passe au cours de l'année. Hein. C'est vraiment un travail de collecte aussi. Ouais. Et après, donc, notre grande difficulté, c'est que quelquefois, on a le spectacle, mais on n'a pas la salle. Voilà, donc dans ces cas-là, il faut faire un peu d'acrobatie.
Ce que connaissent tous les organisateurs de festivals.
Oui, exactement, tout un travail de partenariat, de recherche d'intervenants et de coordination.
C'est ça. Et par exemple, cette année, c'est très bien que vous nous receviez aujourd'hui, parce que demain, entre 14 et 16 heures, on est au centre-ville de Grenoble, accompagné de deux batucadas. Qui bénévoles, hein, qui font ça pour nous aider à parler du festival.
Des batucadas, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est,
peut-être, oui, pardon,
pour les auditeurs qui ne savent
donc,
pas.
Donc, ce sont des percussions essentiellement et d'origine brésilienne. Donc, il y a deux groupes là. Parce que l'année dernière, il y avait deux.
Il y avait la Combe Batucada, qui est une batucada militante qui
intervient
dans ce
dedans.
Genre d'action. Et puis, il y avait Klemser Collectif et puis La Mort Subite, qui sont deux collectifs d'instruments de musique qui font des fanfares et qui défilent en ville. Et qui, cette année, n'ont pas pu nous rejoindre, mais depuis plusieurs années, nous aider à annoncer le festival. Donc, c'est de la fanfare, en fait, avec soit des instruments... traditionnel, soit quand la Combe Batucada, c'est des percussions,
oui,
et ça s'entend de loin.
Et cette année, comme on n'en avait qu'une, et que nous, c'est important pour nous qu'il y en ait deux qui circulent, parce qu'on croise plus de personnes, tout simplement. Chaque fois qu'on croise une personne, on essaye de lui remettre un flyer avec le programme, et on essaye surtout de discuter et de nous faire connaître. Et là, cette année, spontanément, une Batucada de Tulin vient nous rejoindre, ils seront une dizaine, pour justement compléter un petit peu l'animation. Et là aussi, ça s'est fait en parlant autour de nous. En fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on se rend compte... Au début, on a l'impression d'être un petit peu tout seul, surtout avec le discours ambiant, on se dit « oh là là, on devient très minoritaire ». Et puis en fait, quand vous en parlez autour de vous, quand vous voyez les initiatives personnelles de personnes qui vont héberger quelqu'un, de personnes qui vont trouver du linge pour quelqu'un, on s'aperçoit qu'on peut vraiment sensibiliser à côté de nous. C'est un travail de fourmi, c'est
oui,
clair.
En faisant des initiatives à petites échelles. Et...
C'est ça.
Oui, tout à fait. Donc votre association, elle parvient bien à changer les regards sur les migrants. Mais ce changement, il peut également passer par la musique. Donc je vous laisse vous faire une pause musicale et vous plonger dans la musique Au Feu Rouge de Grand Corps Malade.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yanna au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yanna a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yanna rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la musique Au Feu Rouge de Grand Corps Malade. On est aujourd'hui avec Daniel et Blandine qui sont bénévoles pour la CIMADE au festival Migrants Scène qui se passe à Grenoble du 16 novembre au 30 novembre. Et dans sa musique, Grand Corps Malade, il évoque les nombreuses difficultés auxquelles sont exposées les personnes exilées. Notamment dans les paroles où il dit « Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. » Donc ça montre bien la difficulté psychologique et la charge mentale à laquelle sont confrontées sans cesse ces personnes avec des démarches administratives pénibles. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer et expliquer toute la démarche administrative à laquelle sont exposées ces personnes en arrivant en France?
Alors, il faut peut-être préciser de quelles personnes on parle. Il y a des personnes qui viennent en France parce qu'elles ont été contraintes de quitter leur pays, elles y étaient en danger, et elles viennent demander l'asile en France. Ce sont donc des demandeurs d'asile qui rentrent dans un cadre juridique qui est la Convention de Genève de 1951 qui organise l'accueil par les pays qui ont signé la Convention, et 150 pays à peu près l'ont signé, chaque pays ayant l'obligation de recevoir les demandeurs d'asile et d'examiner leur cas et de décider si oui ou non ils rentrent dans ce cadre-là. C'est donc un système qui est organisé en France, c'est l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés apatrides, qui reçoit ces demandes, et ce sont les officiers de l'OFPRA qui reçoivent les demandeurs d'asile et qui vont décider si oui ou non leur récit est véridique, en tout cas s'ils acceptent ou pas leur récit, et s'ils relèvent ou non de l'asile. Si c'est oui, ils deviennent des réfugiés, ils ont une carte de 10 ans qui leur donne les mêmes droits que n'importe qui en France. S'ils sont déboutés, un appel est possible devant la Cour nationale du droit d'asile, où là, les choses sont en train de changer. Un nouvel examen de leur affaire aura lieu avec soit un nouveau rejet, soit une acceptation de leur demande. C'est donc un cas spécifique. Les autres personnes, eh bien, elles doivent remplir les conditions que la loi fixe pour obtenir un titre de séjour, que ce soit un titre pour les étrangers qui sont malades, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas recevoir des soins correspondant à leur état dans leur pays, pour la vie privée familiale, qui ont de la famille en France et qui peuvent y venir, et, pour les étudiants qui viennent faire leurs études en France. Et donc, ces personnes doivent remplir un dossier et fournir tout un tas de papiers, et les papiers casse-tête, ce sera le thème de l'ouverture du festival cette année. On voit que réunir ces papiers, c'est un peu Sisyphe qui doit remonter chaque fois la montagne, et souvent quand le titre doit être renouvelé, il faut recommencer ce qu'on a déjà fait l'année d'avant, 2 ans avant ou 4 ans avant. Ces personnes qui veulent un titre de séjour font le choix, en fait, de demander à la France de les accueillir et s'engagent à respecter les conditions de vie en France. Malheureusement, depuis quelque temps, non seulement la législation s'est durcie, mais à Grenoble en particulier, la préfecture n'est plus en mesure, ne se met pas en mesure de fournir aux personnes les rendez-vous qui leur permettraient soit de demander leur titre de séjour quand ils n'en ont pas, soit, ce qui est encore plus grave, de renouveler leur titre de séjour. Ce sont des personnes donc qui sont en situation régulière, qui ont un titre de séjour qui arrive à expiration et qui doit normalement être renouvelé. Je donne toujours un exemple. Leur titre va jusqu'au 15 décembre. Ils devaient faire leur demande 2 mois avant, donc le 15 octobre, ils ont fait leur demande, et on leur donne rendez-vous le 25 janvier de l'année prochaine. Ils auront perdu leur titre de séjour. Ils auront souvent perdu leur travail. On ne peut pas travailler si on n'a pas de titre de séjour. Ils peuvent perdre les allocations pour leurs enfants. Et ils peuvent perdre leur logement. C'est une catastrophe humaine qui est absolument intolérable.
Oui. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, il y a aussi eu la dématérialisation de la procédure qui a été mise en place. Donc elle doit être faite en ligne sur Internet. Et en quoi cette dématérialisation, elle augmente encore plus ces inégalités, ces difficultés ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est celui qui nous concerne tous, c'est de s'y retrouver dans les circuits de la dématérialisation, que ce soit pour demander renouveler son permis de conduire, enfin sa carte grise, que ce soit les arcanes de la dématérialisation, c'est quelque chose que ne maîtrise pas tout le monde, et les gens comme moi, d'un certain âge, c'est quelque chose qui devient très compliqué. Vous êtes étranger, vous ne parlez pas ou mal le français, vous devez quand même passer par ces voies-là. Ça, c'est le premier obstacle. L'obstacle, c'est l'accès à l'Internet en lui-même. Tout le monde est à égalité, mais ceux qui ont des difficultés pour comprendre ce qui est écrit et ce qui est demandé en ont encore plus que d'autres. Le second aspect, c'est qu'il ne suffit pas de demander. Il faut qu'il y ait des places accordées pour que des rendez-vous soient obtenus. Et l'exemple que je vous ai donné, ça concerne la dématérialisation. C'est-à-dire que les gens qui essayent d'avoir un rendez-vous dans les délais n'arrivent pas à les avoir. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'est pas offert assez de places. Il faudrait 100 places, il y en a 20. Et donc, dès qu'on ouvre le créneau, il est immédiatement rempli, et vous avez des gens qui ont passé des nuits entières à essayer d'obtenir l'accès à ces places. Et puis, on constate aussi qu'il y a des entreprises illégales qui mettent en place des robots, qui trustent dès qu'elles sortent ces places, et qui, on le craint, les revendent. Et donc, ne permettent pas aux gens qui sont honnêtes et qui font régulièrement leurs demandes d'obtenir cet accès. Donc, la dématérialisation, c'est une catastrophe pour beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ça. Et puis, en plus, c'est déjà pas très facile avec un ordinateur, mais avec un petit téléphone portable, avec un petit téléphone, pas portable, c'est par définition, avec un petit téléphone, imaginez le travail que c'est, scanner les documents, tout mettre en ordre, c'est une chose qui est extrêmement compliquée pour les gens qui sont en plus, qui sont parfois à la rue, parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Donc, 55 associations, syndicats se sont regroupés dans un collectif qui s'appelle Bouge ta preuve 38 pour obtenir qu'on applique la loi. Et en particulier, le Conseil d'État a jugé que, à côté de la dématérialisation, les préfectures devaient mettre en place des accès qui permettent aux personnes qui n'ont pas les outils pour le faire d'accéder quand même à ce qui est leur droit, c'est-à-dire des rendez-vous pour présenter leurs demandes, renouveler leurs demandes.
Oui, donc on voit bien tout ce casse-tête, hein, d'où le nom du spectacle, avec cette dématérialisation, où il y a des places qui sont limitées, et il n'y en a pas assez sur des créneaux précis. Et donc ce spectacle, il va être, alors c'est le mardi 19 novembre, c'est ça, à 18h, au salon de réception de l'hôtel de ville de Grenoble. Et il a une construction assez particulière, car il a été fait avec la complicité des habitants du quartier. Donc à quel point ces habitants ils sont intervenus dans la réalisation et quel rôle ils ont joué dans cette réalisation ?
Ça, je vous le dirai le 19 novembre. Je n'ai pas vu ce spectacle. Par contre, je sais qu'ils ont fait une petite exposition qui suit le spectacle et qu'on pourra aussi voir, pour ceux qui voudront venir le 19 novembre, pour là aussi découvrir les difficultés okay. que rencontrent.
C'est l'exposition La Fabrique de Sans-Papiers ?
Alors, non, ça, c'est pas la même. C'est okay. les papiers casse-tête. Ils ont fait des kakémonos, je crois que ça s'appelle comme ça, qui expliquent un peu les constats qu'ils ont faits par rapport aux difficultés. Alors, La Fabrique des Sans-Papiers, c'est une autre exposition qui, celle-là, est pendant tout le mois de novembre à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. Et donc, c'est une exposition de la CIMAD qui explique comment se fabriquent, justement, des sans-papiers. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en situation régulière. Vous devez renouveler votre titre de séjour, alors avec des périodicités qui peuvent être de 1 an, de 2 ans, de 4 ans, et vous n'avez pas le rendez-vous qui vous permet. Vous devenez, le jour où tombe le délai, vous devenez un sans-papier. Et c'est absolument ce que je vous expliquais, quelque chose de dramatique. Et cette exposition explique un peu les causes et les conséquences de ce drame humain qui est causé par le manque de volonté de mettre en place les moyens de traiter correctement, dignement et dans le respect du droit la situation de ces personnes.
Oui, et cette exposition, elle dénonce aussi fortement le terme de sans-papier. Alors, qu'est-ce qui vous évoque ce terme ?
Les sans-papiers, ils ont des classeurs complets de papiers qui réunissent.
C'est vrai, avec toutes les démarches administratives.
Pour essayer de démontrer que si c'est un couple dont un des éléments est étranger, de montrer qu'ils vivent bien ensemble, donc ils gardent les tickets de restaurant, ils gardent le loyer.
Des amoncellements de justificatifs.
Les sans-papiers, ils ne passent leur temps qu'à réunir des papiers.
Ce qui est... Et à les montrer et à les classer.
Donc, c'est effectivement... voilà.
C'est l'aberration du système dans toute sa splendeur.
Oui, et ça évoque aussi la réalité des choses, des personnes qui sont en France depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc c'est ce qui est dit dans le résumé. Et donc toujours en situation irrégulière, ça paraît un peu grotesque cette situation. Voulais vous demander quels sont aujourd'hui ces critères de régularisation, pourquoi des personnes elles sont amenées à attendre autant de temps.
C'est un sentiment peut-être très personnel, mais l'objectif sous-jacent, de toute façon, c'est de rendre les démarches les plus difficiles possibles. Et on le voit bien, de toute façon, ça se dit aux États-Unis aussi maintenant, mais l'idée, c'est quelque part de stopper la migration. C'est quand même l'objectif.
Oui, alors qu'au fond, on y participe aussi parfois. Ça dépend quelle migration, mais pour les migrations de guerre, en finançant des désarmements ou quoi que ce soit, c'est contradictoire aussi.
Ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est que la plupart de ces personnes payent des impôts.
Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne travaille pas, il faut vivre. Et pour vivre, pour manger, il faut travailler, il faut des sous. Et donc, c'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne trouve pas de travail. On le trouve avec le risque pour l'employeur de devoir payer des amendes importantes, mais surtout pour le salarié de se faire expulser s'il se fait attraper. Et il y a tout un jeu qui est très, très délétère, très malhonnête. On empêche ces gens de travailler tout en sachant qu'ils travaillent. Alors, la circulaire Valls, qui date de 2013, je crois, était une circulaire qui permettait de régulariser des personnes sans papier à condition qu'ils puissent produire des feuilles de paye réunies au cours des 3 ans précédentes. Ils n'ont pas le droit de travailler. Mais ils ont des employeurs et ils ont des feuilles de paye. Pas forcément à leur nom. Ça peut être le nom d'une... Voilà. Et la circulaire permet que l'employeur certifie que la personne qui a travaillé avec la fiche de paye avec un autre nom que le sien, c'est bien la personne qui demande aujourd'hui un titre de séjour. Et au départ, mais c'est qu'une circulaire, on invitait les préfets, compte tenu de leur pouvoir discrétionnaire. C'est quoi un pouvoir discrétionnaire? Eh bien, c'est un pouvoir qui s'exerce sans être justifié. Le préfet peut dire oui, peut dire non. Point. Voilà. Et donc, les préfets pouvaient régulariser les personnes. Alors, il y avait un peu des critères. D'avoir des enfants scolarisés depuis un certain nombre d'années. D'être en France. Donc, au moins, actuellement, on s'aperçoit qu'il faut à peu près 10 ans de présence pour pouvoir espérer une possibilité de régularisation. C'est donc tout un paradoxe, puisque on ne peut pas travailler quand on n'a pas de papier, mais pour justifier et obtenir un titre de séjour, on doit expliquer qu'on a travaillé. Et que, voilà, donc c'est...
constat très, très contradictoire.
Pour illustrer ce propos, si vos auditeurs peuvent aller voir le film « L'histoire de Souleymane » qui est sorti au mois d'octobre, mais qu'on repasse, nous, avec un débat à la fin du film le jeudi 21 novembre à Montciné, à Saint-Martin-d'Air, parce que là, c'est typiquement ça. C'est vraiment... dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, se ZAM pour obtenir des papiers, mais Souleymane n'est pas prêt et on comprend pourquoi il n'est pas prêt. Par rapport à la solidarité aussi dont on parlait tout à l'heure, l'autre film que certains de nos auditeurs ont peut-être déjà vu parce qu'il date un petit peu, c'est The Old Hawk de Ken Loach, où là, ce qu'on évoquait tout à l'heure de la solidarité qui peut naître à partir de l'arrivée de migrants dans une cité ou dans un village, là c'est la démonstration en Angleterre, mais on voit que le problème est de toute façon européen, de cette capacité des personnes à au départ avoir peur, ces fameuses peurs irrationnelles qui sont fondées sur que des doutes et des rumeurs. Et il s'agit de réfugiés syriens, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de migrants qui cherchent à quitter la France. La France n'est pas l'endroit idéal pour les migrants. Beaucoup cherchent à aller en Angleterre, souvent parce qu'ils ont un petit peu de famille, mais aussi parce que la vie, une fois qu'on y est plus facile qu'en France.
Oui, donc ils essaient de passer par la France parfois pour aller en Angleterre.
C'est ça. Et on sait que c'est très meurtrier.
Voilà. Et donc ces deux films, l'histoire de Souleymane qui est le jeudi 21 novembre à 20h au cinéma Montciné.
De Saint-Martin-d'Air.
Et celui de Ken Loach qui est
à Villarbonneau.
À l'Espace Aragon.
Lundi 25 novembre à 20h à l'Espace Aragon, tout à fait. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à obtenir de titre de séjour, elles sont parfois confrontée à une obligation de quitter le territoire français. Et je voulais vous demander à quel point il y a des risques d'expulsion quand on est dans cette situation.
La France est championne d'Europe des OQTF, obligation de quitter le territoire. On en délivre à ne savoir qu'en faire 100 000, plus de 100 000 par an. Sur ce nombre, il y en a autour de 20 000, 25 000 qui sont exécutés chaque année. Les 80 000 autres ne sont pas exécutés. Et c'est donc une fragilisation de toute une population, d'autant que les OQTF, elles durent un certain temps, elles tombent pas forcément, et de plus en plus, elles font obstacle à la possibilité de régulariser sa situation. Et quand on est sous OQTF, donc susceptible d'être expulsé, de plus en plus, on utilise... C'est des gens qui n'ont commis aucun crime, aucun délit, en dehors du fait de ne pas être en règle administrativement. Ils n'ont jamais volé personne, ils n'ont peut-être même jamais une contravention pour stationnement interdit, mais ils n'ont pas les bons papiers. Et n'ayant pas les bons papiers, ils risquent d'être conduits en centre de rétention administrative. Il y en a une vingtaine, 23, 24 en France, on essaie d'en construire d'autres. Et dans ces centres de rétention qui sont pires que les prisons, parce que dans ces centres, ils n'ont rien à faire. Ils sont enfermés jusqu'à 90 jours maintenant, je crois bien. Ceux qui ne sont pas expulsés dans les 10-15 premiers jours, en général, on n'arrive pas à les expulser. Alors pourquoi on n'arrive pas à les expulser? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de pays qui accepte de les recevoir, que leur pays refuse de leur donner une carte consulaire qui permettrait de les renvoyer. Et puis parce que c'est ça tous les paradoxes. Inhumain de les renvoyer dans un pays où ils étaient persécutés. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vous ai dit, les demandeurs d'asile, donc des personnes qui invoquent des persécutions, il y en a actuellement 30-35% qui obtiennent le statut de réfugié. Les 70% qui restent, ils sont dans la rue. Et bien souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas reconnu leur situation individuelle qui aurait permis qu'ils aient le statut de réfugié, qui autorise à les renvoyer dans le pays où il y a la guerre, où ils sont persécutés parce qu'ils sont homosexuels. Maintenant, on est en train de se poser la question en Afghanistan, est-ce qu'on peut renvoyer des femmes en Afghanistan, vu la manière dont ça se passe, et la réponse devra être non, sans équivoque, etc. Et donc, il y a cet écart entre l'humanité qui voudrait qu'on ne mette, et c'était pour ça que c'était prévu au départ, dans les centres de rétention, que des gens qui, effectivement, qu'on pourra renvoyer dans leur pays, et non pas qu'on s'en serve comme un moyen de pression sur toute une partie de la population qui va perdre son emploi, ils deviennent fous, quoi. Parce que dans une prison, il y a une organisation, il y a un service médical, il y en a pas beaucoup, mais il y a du travail. Dans les centres de rétention, il n'y a rien.
Donc une situation très compliquée. Et vous avez parlé des femmes afghanes, donc à propos de la condition des femmes étrangères aussi, qui elles sont confrontées aussi des difficultés autres, en plus de toutes les autres difficultés qu'on vient d'évoquer. Et vous avez une exposition à ce sujet-là, qui est l'Atelier des femmes fortes, qui est chez Théo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation auquel ces femmes sont confrontées, ou les situations, parce que je pense qu'il y a différents cas de figure.
Alors, cette exposition est une exposition qui a été créée à Montpellier, au centre Frantz Fanon, qui est un centre de la CIMAD où sont accueillis des gens qui sont en stress post-traumatique. Donc elles ont subi, pour ce qui est des femmes, des choses absolument abominables dans leur parcours, et elles essaient de se reconstruire dans ce centre. Et donc, c'est un atelier thérapeutique qui a fait ce projet d'utiliser la photographie pour raconter, entre guillemets, un certain nombre de situations qu'elles ont vécues. C'est une exposition qui est d'abord à visée thérapeutique. Et puis,
Quand vous dites à visée thérapeutique, c'est
pour
les femmes...
C'est-à-dire, c'est pour le groupe, les femmes du groupe.
Ok, elle s'adresse à ces femmes-là.
Ah, voilà. Okay. Et puis, il y a une valeur artistique et puis informationnelle à cette exposition. Et donc, on va la faire circuler un peu avec précaution, parce que certaines photographies sont dures. Et puis, évoquer des viols, évoquer des violences dont sont victimes des femmes, l'excision, ce n'est pas des choses faciles non plus. Mais c'est important de comprendre qu'effectivement, les 50% de migrants qui sont des migrantes, elles subissent des sévices, des violences spécifiques, voilà. Et donc, c'est l'occasion d'y réfléchir, prendre conscience de ce qu'elles ont subi, et puis...
Je voulais préciser que c'est chez Théo, donc ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est rue Hébert, à Grenoble, donc pas loin de la place de Verdun. Donc dans notre programme, on dit quand est-ce que c'est ouvert, parce qu'il y a des permanences, bien évidemment. En tout cas, c'est un lieu qui pourrait... Enfin, on pourrait dire que ça ressemble à un café, et on peut s'y poser, et il y a plein d'autres activités adjacentes. Hein. Mais en tout cas, il y a cette expo qu'on peut voir jusqu'au mardi 26 novembre. Voilà,
c'est l'église protestante unie de Grenoble qui nous accueille dans ce lieu qui est un lieu de l'église protestante.
Et donc dans cette exposition, il y a une différenciation entre les violences qui sont exercées dans le pays d'origine sur ces femmes, mais il y en a aussi exercées pendant le parcours migratoire et même une fois qu'elles sont arrivées. En France, par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différents types, ces différentes formes de violences auxquelles elles sont confrontées, peut-être ?
On a, pour ceux qui ont un peu suivi, ce qui se passait dans les airs de Libye, en Libye. Ces gens, ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui étaient mis en prison, vendus comme esclaves,
torturés,
c'est revendus à leur famille quand ils pouvaient payer, etc. C'est une partie des difficultés que peuvent rencontrer les femmes. Après, il y a la traversée. Bon, là, je pense qu'on se noie aussi bien qu'on soit un homme et une femme.
Oui, on nage peut-être mieux quand on a quelques muscles.
Voilà. Bon, mais à l'arrivée, le parcours des femmes, comme celui des hommes, est un parcours du combattant. Pour obtenir des rendez-vous en préfecture, pour justifier de ce qu'elles ont subi. Et ce sont des violences administratives. Alors qu'elle pensait avoir touché un peu au but et être arrivée à être sauvée, entre guillemets, là aussi, eh bien, pas du tout. Commence le parcours administratif, qui est un parcours extrêmement difficile, qui peut être douloureux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va souvent leur demander d'évoquer ce qu'elles ont vécu. On en rajoute une couche, quoi. Et puis, c'est pas parce que... Le temps qui passe, les difficultés pour réunir des documents, tout ça, c'est une violence qui s'ajoute à celle des hautes violences qu'elles ont subies avant.
Et là, on revient à un point important, c'est-à-dire que là, ce sont effectivement des victimes, mais on ne veut pas non plus, à la CIMAD, que le migrant soit, comme j'ai dit tout à l'heure, constitue une menace ou c'est une pauvre victime. Parce que derrière, il y a encore une fois des êtres humains qui se battent. Et effectivement, ils viennent pour des raisons de conflits, de pauvreté dans leur pays, de catastrophes naturelles. Et là, on va avoir de plus en plus de personnes hein, par rapport aux catastrophes climatiques. Les passeurs aussi, qui sont un mauvais moment à passer, sans jeu de mots. Mais ils ne se résument pas à ça. Et c'est pour ça que ces ateliers ou les psychologues qu'ils peuvent rencontrer, ils ou elles d'ailleurs, les aident à dépasser ce stade-là et à présenter une image d'eux-mêmes différente.
Ok, et donc oui, concernant ces violences que les femmes elles peuvent subir, est-ce que vous avez des dispositifs spécifiques à la CIMAD pour les aider ?
Il y a justement ce centre Frantz Fanon à Montpellier. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, Blandine, Oro, c'est de la danse. La langue de mon père, c'est un peu pareil. Je n'ai pas toujours dansé comme ça, c'est de la danse. Et c'est des étrangers qui nous amènent cette joie, cette manière d'exprimer tout ce qu'ils ont vécu. Et on a parlé de choses graves et sérieuses, mais le festival, c'est d'abord un moment de fête.
Et d'échange.
Et pour la clôture, on va tisser, il y aura un tissage qui va être mené avec une personne qui viendra nous montrer. Chacun va écrire un peu ce qu'il voudrait sur un morceau de drap et on va en faire une roue dans laquelle on va rentrer les tissus et cette roue, ça sera le tisser l'avenir. Et il y aura dedans nos souhaits pour l'avenir que nous souhaitons.
Donc, magnifique métaphore de cet atelier pour tisser l'avenir. Cette émission, elle va toucher à sa fin. Mais avant ça, je voulais juste vous demander si vous pouviez nous raconter votre meilleure expérience humaine que vous avez vécue en tant que bénévole ou dans le festival. C'est tous les jours l'expérience humaine vous êtes bénévole à la CIMAD.
Oui, il y a beaucoup de choses. Mais par rapport au festival, c'est vraiment cette batucada. C'est extraordinaire de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui viennent nous soutenir, nous faire briller dans la rue. Je trouve que c'est assez génial.
C'est tous les moments où on se sent un collectif, mais au sens très large du terme, quoi.
Ces moments où vous vous sentez lié, une unité, peu importe les cultures.
C'est ça.
Et donc où l'altérité se met en place. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé de votre temps pour cette émission.
Remercions de nous accueillir.
Pour vous rappeler, venez nombreux à la Batucada pour vivre cette expérience.
Demain après-midi.
Vous voulez plus de renseignements sur le festival, www.migrantscène.org et vous allez aura Grenoble et vous aurez la liste de tous les événements auxquels vous pouvez assister.
Tout à fait, parce qu'on n'a pas pu évoquer tous les événements, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et si vous nous écoutez de plus loin aussi, il y a d'autres festivals Migrants en scène.
Ils sont reliés aussi sur Facebook.
Sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, site internet. Donc je pense que vous trouvez les réseaux sociaux sur le site internet.
Tout à fait. Voilà. Sur Facebook, il y a un suivi régulier. Voilà. Puis Instagram aussi.
Tout à fait.
Mais c'est des mots qui sont de la génération d'après la mienne.
Donc ça se passe du 19 au 30 novembre, un peu partout dans Grenoble, sur une thématique qui ne peut que être mieux comprise qu'en y étant confrontée concrètement par des œuvres. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique et je vous laisse sur une dernière musique qui est Paris Métèque de Gaël Faye.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences cacophoniques. Paris ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes. Que je chanterai la nuit tombée, debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires.
noir raturé, des chemins d'Erevan aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, beau people, caravelle sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.